Réfléchissez deux minutes.
Ensemble sur Calade.
Accessible.
Le prof Patrick.
Oui, il est avec nous en studio, le prof Patrick, bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Bon, on a commencé il y a 2 semaines maintenant,
ouais.
Une grande série.
Une saga. Soyons modestes.
C'est encore plus classe. Alors, rappelez-nous de quoi est-ce qu'on parle.
Eh bien, on parle des régimes politiques d'accumulation, qui tout de suite fait moins saga,
ouais.
Fait plus sujet chiant. C'est-à-dire en fait les régimes politiques qui permettent au système économique de fonctionner, et on a vu qu'ils se sont succédés. Depuis le début du 19e siècle, différents types de régimes politiques. On a vu d'abord le régime libéral, tout le 19e siècle jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, le régime fordiste de 1945 à 1975, les fameuses 30 Glorieuses, le régime néolibéral qui domine depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui, pendant 40 ans, et qui continue à dominer, hein, ne nous trompons pas. Simplement, on a décrit la semaine dernière comment l'événement du Brexit, le fait que le Royaume-Uni décide de quitter l'Union européenne, était l'événement annonciateur de la montée en puissance d'un nouveau régime politique d'accumulation qui est le libertarisme autoritaire, ouais. Qui pourrait, gardons le conditionnel, qui pourrait succéder au régime néolibéral, mais je veux dire, le combat est en route et tout n'est pas terminé. Peut-être que le régime néolibéral va continuer à dominer, on ne sait pas.
C'est les régimes qui permettent le fonctionnement...
C'est toutes les structures politiques qui permettent un bon fonctionnement du système économique.
Du capitalisme.
Capitalisme, bien sûr, sachant que ce capitalisme, il évolue.
Ouais.
Et donc, ça explique aussi pourquoi les régimes politiques évoluent également.
Ok.
Alors maintenant, il s'agit de tracer les contours de ce libertarisme autoritaire, puisque là, on l'a juste cité sans trop le décrypter. Tout part en fait d'une myriade de think tanks. Les think tanks, ce sont des terminologies américaines.
Mais l'accent est excellent.
Ouais, mais j'essaye, hein, c'est comme ça. En fait, ce sont des groupements d'intellectuels qui se réunissent pour produire de la pensée. Et bon, ce qu'ils ont besoin, c'est un peu de pépette hein, quand même pour financer la structure. Et donc, ces think tanks se sont développés à partir des années 90-2000 aux États-Unis et au Royaume-Uni. Mais à travers une inspiration qui est l'inspiration libertarienne, la philosophie libertarienne. Ils sont largement climato-sceptiques, alors pour une raison très simple, hein, c'est que beaucoup sont fondés par des milliardaires qui ont fait fortune dans les énergies fossiles. Donc voilà, naturellement, ils sont climato-sceptiques.
Ils ne sont pas forcément voilà. Sceptiques, mais en tout cas...
Oh si, quand même, très.
C'est pas leur souci, quoi.
Voilà, oh non, ils sont climato-sceptiques, non, largement. Et ils sont néoconservateurs au sens américain du terme, les fameux néocons américains qui ont commencé à avoir du pouvoir à partir de W. Bush, le crétin président... qui a exercé aux États-Unis pendant 8 ans. Alors, il y en a des très puissants aux États-Unis, mais aussi au Royaume-Uni. Je vais en citer quelques-uns. Au Royaume-Uni, il y a une rue à Londres qui s'appelle la Tufton Street, où se rassemble une myriade de think tanks libertariens. On a par exemple l'Adam Smith Institute, on a le Taxpayers Alliance, le Global Warning Policy Foundation, l'Atlas Network, et tout ça, c'est tout dans la même rue, Tufton Street, chacune avec ses spécialités en termes de réflexion. Aux États-Unis, je vais en citer 3, il y a le Cato Institute, très célèbre, fondé par des milliardaires qui sont des frères, les frères Koch, libertariens climato-négationnistes à fond la caisse, le Heritage Foundation, libertariens à fond la caisse, et le Mises Institute, c'est du nom de Ludwig von Mises, qui était un grand économiste libéral tendance Hayek, voilà, de la même école de pensée, l'école autrichienne de mémoire. Alors, quelles sont les idées de base de ces courants de pensée libertariens? Eh bien, au niveau géopolitique, ils sont tous isolationnistes, comme l'était Donald Trump, c'est-à-dire tendance à dire il faut s'occuper de nos intérêts propres et arrêter de se mêler des affaires du monde. Par contre, ils ne sont pas protectionnistes économiquement, hein, faut pas confondre. Donc, ils ont tendance à s'opposer aux institutions internationales qui, pour eux, correspondent à une forme de collaboration internationale qu'ils réprouvent. Alors, ces gens-là, les libertariens, prônent un capitalisme totalement dérégulé, totalement, hein, attention. Pour eux, l'État n'est là que pour garantir une chose, et rien d'autre, c'est la propriété privée. C'est tout. Ils voient la société uniquement à travers le prisme des seuls individus. En gros, la société n'existe pas, n'existe que des individus dont le but qui est de chercher leur propre bonheur. Voilà. Bon, ce début de description pourrait faire dire qu'ils sont pas si éloignés que ça des néolibéraux. C'est un fait. Oui. Évidemment, ils sont pas très éloignés, mais sauf qu'ils vont plus loin que les néolibéraux sur plein d'aspects. Par exemple, sur le rôle de l'État, pour eux, tout doit être privatisé. Les fonctions régaliennes, c'est-à-dire police, justice, armée, privatisées. L'éducation, privatisée. Les infrastructures, privatisées. Tout ça doit être enlevé des mains de l'État. D'autre part, alors que les néolibéraux gardaient quand même l'idée que le recul de l'État bénéficierait au plus grand nombre, donc au bien commun, les libertariens, non, ils s'en foutent, ils disent de toute façon, le recul de l'État, la quasi-disparition de l'État, c'est l'objectif, quelles qu'en soient les conséquences, même si elles sont négatives.
D'accord.
C'est des jusqu'au boutistes. Concernant les libertés démocratiques, alors on a déjà vu ensemble, Mathieu, que les néolibéraux les placent après la liberté de marché. Je l'ai rappelé il y a deux chroniques. Les libertariens, bien sûr, sont sur la même ligne, mais avec encore moins de scrupules. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux, toutes les libertés sont secondes par rapport à la seule liberté qui vaille, la liberté de posséder, liberté de propriété, et la liberté d'accumuler. Avec les libertariens, quelque part, on pourrait dire, Mathieu, qu'on arrive à la mort définitive d'un mythe qui a longtemps accompagné le libéralisme. C'est le mythe que le capitalisme aurait besoin de la démocratie pour fonctionner et générerait des sociétés qui vont vers la démocratie.
C'est ce qui était vendu pendant
C'est ce qu'on nous a longtemps répété, jusqu'à il y a encore pas si longtemps que ça.
Pendant la guerre froide où on disait...
Même avant, ça remonte à Adam Smith. Dès Adam Smith, il nous dit ça. Le problème, c'est qu'on a vu qu'avec les dictatures militaires d'Amérique du Sud dans les années 70 et avec la Chine moderne encore plus, il n'en est rien. On peut faire du capitalisme pur et dur dans des systèmes totalement non démocratiques. Les libertariens, eux, s'accommodent très bien de ce constat. Pour eux, le capitalisme n'a pas besoin de la démocratie pour fonctionner. Voilà. Je vais faire un petit retour en arrière vers un économiste qui a écrit un livre important dans les années 40. Ce livre, c'est La Grande Transformation. L'économiste s'appelait Karl Polanyi. Dans La Grande Transformation, Karl Polanyi affirmait que c'est le capitalisme lui-même qui, par les crises qu'il provoquait, avait donné naissance au fascisme. D'accord ? Eh bien, aujourd'hui, avec un peu en repensant à Karl Polanyi, on peut penser à minima qu'au vu de la domination des élites libertariennes sur le monde économique et politique, la domination progressive, on arrive à un stade où ces élites pensent pouvoir, faute d'opposition sérieuse, se débarrasser de l'encombrant système démocratique libéral. On en est là, en fait.
Se débarrasser, oui.
Oui, je pense que s'il n'y a pas d'opposition sérieuse qui se manifeste, ils vont considérer que la démocratie libérale n'est pas nécessaire. Tout ça, ça nous permet de comprendre, Mathieu, les liens de respect mutuel qu'il y a entre les courants libertariens d'un côté et les forces politiques autoritaires qui montent en puissance dans le monde entier. Je pense à la Hongrie de Orban, la Pologne, des mouvements d'extrême droite partout en Europe, notamment en France et en Italie, à la Russie de Poutine avant l'invasion de l'Ukraine, au Brésil de Bolsonaro. Tout ça, il y a vraiment des liens de respect mutuel, comme je l'ai dit, entre les libertariens et eux. Et donc... quelque part, on pourrait dire que ce régime, ce nouveau régime politique d'accumulation, libertarien autoritaire, qui monte en puissance, s'il arrive à vraiment prendre le pouvoir dans le monde entier, il sera le fruit d'une alliance entre une élite financière richissime, financière et intellectuelle, composée de milliardaires, ou financée par des milliardaires, et une masse de citoyens qui se tournent massivement vers des courants d'extrême droite dans le monde entier. Voilà. Donc si certains auditeurs pensent, en m'écoutant, à l'action méthodique de notre milliardaire à nous, Vincent Bolloré, dans le paysage médiatique français, pour installer, légitimer, rendre acceptable, rendre incontournable une vision du monde basée sur les valeurs d'extrême droite, ils ont gagné un carambar. On a un très très bon exemple de ce type d'alliance avec M. Bolloré et son projet qu'il met en œuvre à travers CNews, Europe 1, etc. etc. C8 aussi également, ces petits soldats, zélés petits soldats comme Cyril Hanouna et compagnie. Ouais. Bref, inutile de vous le cacher, je n'ai pas encore abordé l'aspect le plus inquiétant de leur vision du monde. Alors que j'en ai déjà abordé pas mal.
Oui, on n'est pas super rassuré déjà.
Eh bien, on va parler de la question climatique. On a vu donc, je l'ai dit, que le climato-négationnisme, le climato-scepticisme dominait dans le camp libertarien. Alors, je vais faire un rapide déroulé de l'évolution des positions des climato-sceptiques depuis les années 90. On pourrait dire que ça s'est passé de la manière suivante. D'abord, dans les années 90, ils ont nié, les climato-sceptiques ont nié, la réalité du réchauffement climatique. Et ce, jusqu'au début des années 2000. Puis, à partir des années 2000, ils ont accepté, parce qu'ils étaient bien obligés, ils n'avaient pas le choix, la réalité de ce réchauffement. Mais ils ont nié que les causes de ce réchauffement proviennent des activités humaines. Ce n'est pas les activités humaines, c'est le soleil, c'est des bulles solaires. D'accord ? Et puis après, ils ont fait des variantes aussi. Il y a toujours eu des périodes de réchauffement dans l'histoire. Ça, c'en est qu'une parmi d'autres. C'est transitoire, ça ne durera pas. D'accord ? Bon, scientifiquement, non, c'est pas du tout ça. C'est, la réalité n'est pas de cet ordre, c'est plus compliqué. Et enfin, aujourd'hui, tout en introduisant parfois des variantes à leur discours, par exemple, c'est la faute de la croissance démographique, hein, si on a du réchauffement climatique, ils expliquent qu'il vaut mieux, et là je vais citer en fait un ancien ministre de Boris Johnson, qui est gérant de hedge fund. Tiens, on revient à ce monde financier qui a soutenu le Brexit. Eh bien, il expliquait en 2017 qu'il vaut mieux accepter le changement climatique et s'y adapter, plutôt que de, j'ouvre les guillemets, retourner à l'âge de pierre en réduisant la consommation des gens. Donc, il faut faire avec, quoi, en quelque sorte. C'est un peu leur discours. Alors, bien sûr, ils reprennent à leur compte la philosophie des mécanismes de marché, ce que j'avais appelé la soutenabilité faible, c'est-à-dire, avec les mécanismes de marché, les prix vont augmenter et ça incitera les acteurs économiques à investir dans l'innovation verte, etc. etc. Bref, on avait un peu parlé de tout ça. Bon, leur conception, évidemment, philosophico-politique, passe par une idée, pour protéger la nature, il faut tout privatiser. Bah oui, c'est normal, hein, ouais. Ils sont contre l'État, donc il s'agit de tout privatiser. D'abord parce qu'ils estiment que toute gestion collective publique est illégitime, et ensuite parce qu'ils estiment que ce sera plus efficace, d'accord ? Et donc on voit bien là aussi la filiation avec le régime néolibéral, c'est-à-dire que c'est une philosophie qui mène vers une marchandisation totale du monde, marchandisation de la nature. Donc rien ne doit échapper à la marchandisation et à l'accumulation capitaliste. Alors voilà un petit peu le tableau. Je vais terminer cette troisième partie par une question. Le fameux aspect effrayant que j'ai évoqué plus haut, il n'y est pas encore, hein, je m'en approchais, mais est-ce que ces libertariens, milliardaires pour beaucoup, intellectuels, croient vraiment que les solutions qu'ils préconisent vis-à-vis du problème du réchauffement climatique sont vraiment efficaces ? C'est une bonne question, hein ?
Ouais.
Il est permis de penser que pour une bonne partie d'entre eux, la réponse est non. Il est permis de penser que la plupart d'entre eux savent que leurs solutions ne sont pas efficaces. Alors, si c'est le cas, qu'est-ce qu'ils ont en tête pour ce qui est de notre futur à tous ? Pour répondre à cette question, peut-être faudra-t-il qu'on s'intéresse, un de ces quatre, à l'idéologie des milliardaires. Voilà, un petit teasing sur une chronique prochaine qui pourra creuser un peu cette question. Je vais faire une conclusion donc à cette trilogie, en quelque sorte, sur le régime libertarien autoritaire. Nous avons tracé donc dans ces trois chroniques les contours de forces politiques, économiques et politico-économiques très puissantes qui peu à peu prennent place dans les sphères du pouvoir aux États-Unis et au Royaume-Uni pour déclencher cette révolution libertarienne. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, qu'on se rappelle que c'est dans ces deux mêmes pays qu'est partie la révolution néolibérale au début des années 80, avec le succès que l'on sait, elle domine depuis 40 ans. Donc attention, même point de départ. Tout n'est pas joué pour autant dans le reste du monde. Hein, je dirais, le régime néolibéral continue à dominer. Mais l'alliance libertarien-extrême droite est la force politique la plus menaçante aujourd'hui dans bien des pays du monde, à commencer par la France. À suivre donc de très près. J'en ai terminé, Mathieu.
On est de très bonne humeur maintenant, grâce à vous.
Comme d'habitude.
merci beaucoup. À très bientôt.
À plus.
Ensemble sur Calade.